suffit-il d'aller contre la loi de son pays pour devenir une Antigone ? Celui qui fait passer l'ordre avant la justice est-il forcément un Créon ? Antigone et Créon sont devenus des noms communs, mais les personnages inventés par Sophocle ont une histoire, héritée de la mythologie et des motivations bien précises qui annulent toute tentative de généralisation à leur sujet. Voici donc l'histoire d'Antigone dans le texte, le destin tragique de celle qui dit non jusqu'au bout, mais au nom de quoi ?
Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille, noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser, seule, en face du monde. Seule, en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa cerismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme. De nous tous, qui sommes là, bien tranquilles, à la regarder. De nous, qui n'avons pas à mourir ce soir.
Bonjour Heinz Wissmann.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous venez d'entendre l'ouverture de la pièce d'Antigone, version de Jean Anouilh en 1944, qui laisse entendre que Antigone, cette petite fille maigre au fond de la salle, pourrait être n'importe quelle femme, finalement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que nous sommes tous des Antigones en puissance ?
Ça me paraît quand même un peu court. Non, mais Antigone, effectivement, c'est quelqu'un qui est contre. D'ailleurs, le « anti » dans son nom peut aussi être compris comme « contre ». Et d'ailleurs, « gonos », qui est la naissance, pourrait dire comme chez l'épigone qui est née après, qu'elle, elle est née contre. Mm-hmm. En échange de, ça reste à déterminer. Mais la problématique de la pièce, c'est qu'elle est contre tellement de choses qu'on a du mal à savoir quel est le véritable enjeu de sa révolte. Et donc, je vais peut-être dire les 3-4 niveaux où s'articule cette opposition. D'abord, c'est évident, dès la scène d'ouverture avec sa sœur Ismène, c'est la femme qui dénonce l'emprise des hommes. Et on s'est beaucoup appuyé là-dessus pour dire que c'est une pièce qui sonne la révolte des femmes. Mais Antigone ne défend pas que les femmes contre les hommes, elle défend l'individu contre le groupe. C'est l'interprétation de Hegel, qui considère qu'avec Antigone, dans la culture occidentale, apparaît une figure qui n'existe pas dans les autres civilisations, qui est celle de l'individu. L'individu qui se détache du groupe. Mais même cela, ça ne colle pas, parce que Antigone s'insurge au nom de la tribu, au nom de sa famille, puisqu'elle ensevelit son frère. Elle défend le lien du sang contre un autre lien, qui est le lien social, qui se construit dans la cité. On se dit, bon, alors c'est une opposition, et beaucoup d'interprètes au XIXe siècle se doivent insister sur le fait que c'est la famille contre la cité. Même Madame de Romilly soutient encore cela dans son interprétation. Mais en réalité, dans la grande altercation avec Créon, Antigone insiste sur le fait qu'elle défend les lois divines contre les lois humaines. Là, on est très très loin de la jeune fille insurgée. C'est une Grecque de l'époque ancienne qui résonne dans le cadre culturel qui est le sien. Or, les lois divines qu'elle invoque sont à leur tour scindées puisqu'il y a les dieux d'en haut, les Olympiens, hein, préside Zeus. Et puis il y a les dieux d'en bas.
De l'enfer,
et c'est Hadès. Or, à mesure qu'on avance dans la pièce, et c'est le cœur aussi, mais Antigone également, le nom d'Hadès revient constamment comme anti-Zeus. Et donc, ce qui était le lien du sang, ce qui était, disons, la femme contre l'homme, ce qui était l'individu contre le groupe, etc., ça devient maintenant, dans le cadre mythologique grec, la lutte des dieux d'en bas contre les dieux d'en haut. Puisqu'en s'évelir, Polynis, son frère, ça signifie lui permettre de rejoindre le souterrain.
Alors, c'est l'enjeu de la pièce. Hein. Antigone s'oppose à Créon, qui règne sur Thèbes, parce que celui-ci refuse d'ensevelir son frère tué au combat. Ses deux frères sont morts au combat. Ouais. L'un va être enterré et l'autre, eh bien, Créon refuse de l'enterrer. Et tout le combat d'Antigone, ouais, en drame, je parle là vraiment de la dramaturgie de la pièce, c'est d'obtenir la sépulture de son frère Polynice. Ouais.
Parce que dans la mythologie grecque, enfin dans la religion de l'époque, un mort qui n'est pas enterré n'aura pas de repos. Elle va errer éternellement, donc l'enjeu, très bête, c'est de lui permettre de rejoindre le royaume d'Hadès, là où il sera tranquille, ombre parmi les ombres, peut-être pas aussi heureux que sur Terre, mais ça aura une espèce d'apparence d'ordre. Mais même cela ne suffit pas pour cerner la figure d'Antigone. Parce que, vers la fin de la pièce, et ça apparaît de plus en plus clairement, elle considère qu'elle doit être maître de son propre destin jusqu'au bout, c'est-à-dire sortir de toutes les oppositions qui admettent des transactions. Le problème homme-femme, on peut trouver des modus. Le problème famille-cité, on peut trouver des manières de régler cette affaire. Donc, toutes les oppositions qu'on a utilisées pour interpréter la pièce sont finalement non tragiques. Et donc, la question est, pourquoi Antigone est une figure tragique? Or, elle est une figure tragique parce que, à travers toutes les oppositions qu'elle évoque, qu'elle vit, qu'elle traverse, eh bien, elle va rejoindre une opposition réellement tragique qui est l'opposition d'elle-même à elle-même. Elle va décider, dans un geste qui scelle une sorte de revendication de singularité absolue, elle va décider de mourir de sa propre main, et pas de se laisser tuer par l'un des principes qui s'opposent dans la pièce. C'est-à-dire, si Créon, par exemple, renonce à la tuer, hein, il se tient à l'écart prudemment, et dit, elle va périr, mais ce sera une mort naturelle. On l'a juste enfermée dans une grotte, un pré-souterrain, oui, si j'ose dire.
Enterrée vivante quand même.
Mais... Et on lui laisse même un peu de nourriture, pour que ce ne soit pas la cité, pas Créon, pas ce pouvoir qui serait responsable de sa mort. Et elle veut, c'est pour ça qu'elle se pend, elle veut absolument garder la maîtrise de sa propre mort. Et au fond, toutes les singularisations qui précèdent, c'est-à-dire celle de la femme contre l'homme, celle de l'individu contre le groupe, celle des dieux d'en bas contre les dieux en haut, etc., toutes ces oppositions qui sont un reflet de l'opposition tragique, mais qui ne sont pas tragiques en soi, eh bien, sont balayées littéralement dans la scène extraordinaire où Créon apprend que Antigone s'est tué, que son amant, le fils de Créon, Hémon, s'est tué, et que c'est une sorte de traînée de poudre. C'est comme si cette mort-là produisait des morts à la chaîne, puisque la mère d'Hémon, la femme de Créon, se suicide aussi. Et du coup surgit, et ça c'est l'arrière-plan de la pièce, la malédiction des Laptacides, c'est-à-dire cette lignée qui a été maudite. Et maudite avant même que Édipe tue son père Laios, avant même qu'il épouse sa mère Jocaste, avant même qu'il se crève les yeux parce que...
On en parlera demain d'Édipe, oui.
Et Édipe, il est d'une certaine manière dans la même situation Antigone, parce qu'il s'en prend à lui-même.
Oui, mais alors justement, vous dites Antigone est un personnage tragique parce qu'elle se donne la mort. Mais si elle choisit la manière dont elle meurt, que reste-t-il de tragique ? Rien n'est plus fort que de pouvoir choisir sa propre mort. Est-ce qu'on ne définit pas par tragique ce dont nous sommes victimes de manière inéluctable, justement ? Elle n'est plus victime puisqu'elle se donne sa mort.
Mais le nœud tragique, quand il se resserre jusqu'au bout... J'ai toujours en tête l'image d'une supernova, une étoile qui meurt en se rétrécissant et qui, au moment de mourir, explose de manière... C'est une supernova, explose de façon absolument aveuglante. Or, le moment tragique, c'est le moment de l'anéantissement, mais l'anéantissement tragique, c'est justement la naissance de quelque chose. La naissance de quelque chose qui dépasse... C'est pour ça qu'on joue les tragédies, pas pour ensuite pleurer à la maison et se dire tout va mal. Non, on rentre reboosté, parce qu'on traverse quelque chose qui est l'extrême même de tout ce qu'on redoute dans notre vie ordinaire.
C'est ce que disait Aristote dans sa poétique. Et c'est ce que fait Sophocle aussi. Il y a une spécificité de la tragédie selon Sophocle.
Non, je pense que toutes les tragédies... Médée, par exemple, la singularité du geste de Médée, qui s'érige soudain en juge absolu par rapport à toutes les bienséances, par rapport à tout ce que les Grecs pouvaient, par exemple, apprécier chez son époux Jason. Jason ressemble à Créon d'une manière absolument aveuglante. C'est l'homme grec raisonnable. Alors, la figure tragique, elle est déraisonnable. Elle fait... en sorte qu'une irruption de quelque chose d'absolument terrifiant fasse disparaître les petites terreurs qui nous entourent, les petites gènes avec lesquelles nous luttons jour après jour, toutes les oppositions. Je m'excuse, mais c'est la pipicha, les femmes contre les hommes, l'individu contre le groupe, tout ça peut se négocier. Mais il y a une chose qui ne peut pas se négocier, c'est le rapport à soi. Et c'est la singularité revendiquée, qui n'est pas l'individualité d'une personne qui, dans la cité, dit « j'ai le droit de voter autrement que vous ». Ça serait l'individualité. Ça, c'est encore dans la transaction. Ça peut se gérer. Mais quelqu'un qui fait de son existence le moyen de s'ériger en singularité absolue, indépassable, dans un geste qui échappe à toutes les déterminations extérieures. Puisque c'est elle qui a décidé, elle aurait pu se laisser mourir, et dans ce cas, elle aurait été dans la logique de l'action de Créon. Mais elle s'arrache à la logique de cette action, en se donnant la mort. Et donc là, il y a un souffle de... Je ne sais pas comment appeler ça... C'est pas un souffle de terreur seulement, c'est un souffle de folie qui s'empare de l'assistance, qui est transportée par quelque chose qui dépasse complètement toutes les oppositions courantes dans lesquelles se débat l'Athénien lambda.
Donc la seule radicalité, c'est dans la mort, au fond.
C'est dans la mort.
La seule chose avec laquelle on ne négocie pas.
Voilà. Et donc, les tragédies grecques tourne autour de ce phénomène pour exacerber ses implications. Alors, la mort, elle peut avoir toutes sortes d'implications. Quand c'est le fils qui tue sa mère, par exemple, c'est encore autre chose. Et ça se gère encore autrement. Mais la perception que j'ai, je trouve que le nom d'Antigone contient déjà, en fait, le sens de la pièce. Parce que Antigone... On peut l'entendre par « né contre ». Contre quoi ? Pas contre les hommes, pas contre la cité, pas contre... Non, elle est née contre elle-même.
Et en face d'elle, dans la pièce, se trouve Créon. Je vous propose qu'on fasse connaissance un instant avec ce personnage de Créon. Les auditeurs des Chemins de la Philosophie vont reconnaître la voix qui interprète Créon, puisqu'il s'agit de Georges Clès. C'était une traduction de Jacques Lacarrière, une réalisation de Georges Perrou, une adaptation donc radiophonique d'Antigone pour France Culture en 1997.
À mon sens, tout homme qui mène une cité et qui... par lâcheté, tient sa langue enchaînée au lieu d'exécuter ce qu'il pense être juste, sera toujours pour moi un être vil. De même, quiconque préfère quelqu'un d'autre à son propre pays. Zeus, à qui rien n'échappe, en soit témoin. Je ne puis me taire quand je vois le désastre approcher de la ville et non sa délivrance. Et c'est pourquoi je me refuse à appeler ami de la patrie celui qui est son ennemi. Car je sais que cette patrie est notre seul salut et que si elle vogue à bon port, nous n'y aurons que des amis. Telles sont les règles grâce auxquelles j'entends redonner à Thèbes sa grandeur. J'ai donc pris les décisions suivantes à propos des deux fils d'Édipe. Éthéocle, tombé glorieusement pour la cité, aura les honneurs du tombeau, comme il se doit pour un héros mort au combat. Mais son frère, Polynice, qui est entré d'exil pour incendier et saccager la terre de ses pères et les dieux de sa race, boire le sang de ses propres parents et les réduire en esclavage, Polynice n'aura pas de tombeau. Je l'ai fait dire par toute la ville, il n'aura pas de chant funèbre. Et son corps restera sur place, sans sépulture, à la merci des oiseaux et des chiens. Mon estime n'ira jamais aux pervers, mais aux justes, à ceux qui se dévouent pour leur cité, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts.
France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett.
Et on parle de tragédie cette semaine, aujourd'hui Antigone, en compagnie du philologue Heinz Wissmann. Vous venez d'entendre donc la tirade de Créon. On fait bien connaissance avec le personnage hein, quand on entend ces mots. On a envie d'essayer pour saisir le personnage de le comparer à des figures contemporaines. Quel type de tyran est-il? Est-il ou non un tyran, Heinz Wissmann? Quand je l'entends dire tout son amour pour la patrie, c'est des figures telles que le maréchal Pétain ou autres patriotes radicaux auxquels je pense. Est-ce que c'est hors sujet ou pas?
Je crois, c'est ça. Créon, c'est pas le monstre. Il défend une cause. Il s'inscrit dans les oppositions qu'on a évoquées tout à l'heure, et il est dans une légitimité. D'ailleurs, cette légitimité, il va la revendiquer tout au long de la pièce, jusqu'à l'effondrement final, où il dit « j'ai beau avoir eu raison, finalement ça change rien au désastre ». Or, le désastre est déclenché par Antigone, qui veut ni des bons sentiments, ni des bonnes raisons. Il veut de rien qui apaise. Or, la voix de Créon, avec cette virilité, c'était très joli, là, dans la tirade.
Celle de Georges Crest, mais oui.
La virilité revendiquée. Eh ben, la voix de Créon est une voix, quand on regarde de près, qui est plutôt douce. Et il veut ménager Antigone. Quand elle a été surprise pour la première fois d'avoir enseveli la nuit son frère, le gardien rapporte, et Cléon dit, mais écoute ma fille, tu ne recommenceras pas. Si c'est pas un bon papa, je vais pas te punir.
C'est son oncle, hein.
Mais la figure, c'est le bon papa. C'est lui qui dit, écoute, tu vas recommencer, sois raison là. Si tu recommences, là, je me fâcherai. Il va se fâcher, mais il va jamais se fâcher jusqu'au bout parce que il va pas ordonner son exécution. Il va avoir une ultime entourloupette encore ménagée d'une certaine manière, sa bonhomie, son...
Ah oui, si vous voyez un bonhomme chez Créon, vous.
Ah, c'est une bonhomie, genre, c'est un vieillard. Enfin, moi, je l'entends, le maréchal Pétain, il est une magnifique incarnation de ça. C'est ce qu'Anouilh avait d'ailleurs saisi, je crois. Alors qu'il a tort dans son interprétation d'Antigone, mais c'est son droit.
Il a tort dans son interprétation.
De faire une jeune fille révoltée, c'est vraiment trop court. Non, c'est pas tragique. Parce que la jeune fille va devenir maman et le truc est réglé. C'est-à-dire que là, non, il n'y a aucune transaction possible. L'explosion tragique finale qui fait naître Antigone contre elle-même. Et sa vraie, c'est naissance et sa mort. Et elle est maintenant née pour l'éternité. La preuve, c'est que nous en parlons.
Mais ça veut
et c'était
dire, ouais.
Ça le but.
Mais ça veut dire que Créon joue un rôle complètement secondaire dans l'aventure d'Antigone.
Non, mais
c'est ça que vous dites, Créon n'est que le faire-valoir.
C'est un faire-valoir. Et d'ailleurs, il fait même pitié. C'est-à-dire, à la fin de la pièce, face à cette violence qui se dégage donc, de la déflagration finale, la mort d'Antigone, il est absolument anéanti, il dit j'aurais pas dû, maintenant je m'en veux, il a du remords, ça fait pas héros tragique. Le héros tragique ne va pas, à un certain moment, changer de pied pour se dire « Oui, j'aurais dû être plus, je sais pas, plus conciliant. » Encore plus conciliant. Il était déjà tellement conciliant.
Bah, quand on l'entend quand même, ce qu'on a entendu, il est peut-être conciliant, mais enfin, il a des idées en tête. Ce qu'il veut avant tout, c'est l'ordre, au fond, on peut le dire ainsi.
Oui, son fils
pas de justice, il veut de l'ordre.
Il n'y a pas de conciliation. Non, l'ordre pour lui, la règle, c'est la justice.
Oui, mais pas la justice exactement, pas la justice, celle que l'entend Antigone.
Mais cette justice-là, aux yeux de Créon, ne l'est pas, parce que c'est la défense de la tribu, du lien du sang,
c'est ça.
De la famille. Et ce sont d'autres divinités que celles que Créon va invoquer. Les divinités du souterrain, là où il y a les Érinies, par exemple, des déesses jalouses qui vont se jeter sur tous ceux qui ont commis un crime de sang. Il suffit de se souvenir de l'Orestie d'Eschyle. Donc, c'est pour ça, tout ce que j'essaye de dire, c'est que toutes les oppositions dans lesquelles on essaye d'enfermer Antigone volent en éclats à cause de son geste final qui est un rapport à soi. Ce n'est plus par rapport à Créon, plus par rapport à son amant, c'est plus par rapport à même son frère, c'est par rapport à elle-même. Elle est seule, et dans sa solitude, elle s'érige en absolu. Et c'est là que je vois le lien avec Médée, même si c'est pas pareil.
Mais Médée, elle ne se tue pas, elle tue ses enfants.
Oui, mais c'est...
Entre autres.
Oui, mais c'est le même geste extraordinairement dévastateur qui fait soudain jaillir la figure de Médée, qui s'élève au-dessus de toutes ses contingences, épouse d'un roi qui l'a abandonné, enfin tout ce qui pouvait entretenir l'aigreur, etc. Ça, on est bien au-delà de tout ça. Il n'y a plus des récriminations, il y a la haine, il y a l'explosion de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et dans cette explosion naît une figure, qui est la figure tragique. Et donc Antigone, comme Médée, est vraiment une figure tragique parce qu'elle ne se laisse absolument pas raisonner à partir de bonnes raisons, quelles qu'elles soient. Elle n'a pas de bonnes raisons jusqu'au bout. La seule raison qui l'anime, c'est de vouloir être Antigone.
Ce que je hais par-dessus tout, ce sont ceux qui se vantent de leurs crimes alors qu'ils ont été pris sur le fait.
Je suis entre tes mains, que veux-tu de plus que ma mort ?
Rien. Ta mort me suffit amplement.
Alors qu'attends-tu ? Je n'ai aucun plaisir à entendre ta voix et n'en aurai jamais. Et toi non plus, tu n'en éprouves pas à m'écouter. Ou gagner une plus grande gloire qu'en mettant mon frère au tombeau. Tous ceux qui sont ici le crieraient comme moi si la peur n'enchaînait leur langue. C'est bien là le privilège des tyrans. Ils font et disent tout ce qu'ils veulent.
Tu es la seule à penser ainsi de tous les gens de Thèbes.
Ils pensent comme moi, mais ils n'osent parler.
N'as-tu pas honte d'être seule contre tous ?
Il n'y a pas de honte à honorer un frère.
Et celui qui l'affronta, n'était-il pas ton frère ?
Il était mon frère, de même père, de même mère.
Alors pourquoi réserver à l'autre des honneurs sacrilèges ?
Qui te dit qu'Éthéocle les trouve sacrilèges ?
Parce que tu honores le traître à son égal.
Ce traître était mon frère, non son esclave.
L'un défendait sa patrie, l'autre la dévastait.
La mort exige les mêmes lois pour tous.
Les bons et les méchants n'ont pas les mêmes droits.
Crois-tu que ces subtilités existent chez les morts ?
L'ennemi reste toujours un ennemi, même mort.
Je ne suis pas faite pour haïr, mais pour aimer.
Eh bien, si tu es faite pour aimer, va donc aimer les morts. Car tant que je vivrai, aucune femme ne m'imposera ses volontés.
Nous y voilà, aucune femme ne m'imposera ses volontés. Il revient au truc, comme vous dites, Heinz Wissmann. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, cette phrase d'Antigone, qui, alors que Créon lui oppose une autre vision de la justice, hein, selon lui, les bons et les méchants n'ont pas les mêmes droits, ce qui est une certaine conception de la justice, plutôt morale d'ailleurs, enfin du côté de la morale que de la justice. Elle dit « Je ne suis pas faite pour haïr, mais pour aimer ». Comment ne pas entendre quelque chose qui serait précurseur d'une forme de christianisme ? Ou alors c'est un amour complètement différent ?
Ah, c'est un amour complètement différent. En grec ancien, il y a trois mots pour l'amour. Il faut bien les distinguer. Eros, l'attraction sexuelle. Philia, et c'est de ça qu'il s'agit ici, c'est le lien familial, c'est, ou tribal, si j'ose dire, c'est ce que j'appelle le lien du sang, et qui est d'ailleurs jalousement préservé par les dieux d'en bas, qui sont essentiellement chargés de maintenir à travers la mort, les rituels d'enterrement, etc., de maintenir cette espèce de dimension de l'amour qui est un lien indissoluble, mais qui n'est pas érotique.
Et ça, c'est les dieux d'en bas qui préservent la filiale, le lien filial.
Ben oui, les Erinnies, par exemple, elles interviennent chez Échille, dans l'Orestie, parce qu'Oreste a tué sa mère. Et donc là, elle crie vengeance, parce qu'elle défend la solidarité qui unit les membres de la même tribu. Et c'est ça qui s'oppose à l'idée de Créon que la justice est du côté de l'organisation de la cité.
Dites-nous juste le troisième terme pour dire amour.
Le troisième terme, c'est agapé.
Agapé.
Et donc, ce qui est chrétien, c'est pour ça que je dis ça, ce qui est chrétien, c'est l'agapé, c'est-à-dire agapan, ça veut dire inviter à sa table, c'est-à-dire se faire plaisir, c'est la scène. Quand le Christ partage le pain, le vin avec ses apôtres, ça c'est l'agapé. On est à mille lieues de l'éros, mais on est encore très 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 loin du lien familial. C'est autre chose, c'est l'amour du prochain. Or, Antigone, c'est pas l'amour du prochain, c'est l'amour du sien. C'est tout à fait autre chose. Et donc, dans cette scène, elle utilise l'opposition entre les lois froides de la cité, la justice formelle, les règles, et les rituels qui scellent ce qu'on pourrait appeler la solidarité familiale.
Oui, mais justement, alors est-ce que c'est par respect des traditions ou par amour pour son frère qu'elle tient à tout prix à l'enterrer ?
Non, mais l'amour, dans ce cas, soyons tout à fait grecs, c'est l'amour qu'on a automatiquement pour son frère quand on est sa sœur.
Voilà, donc c'est pas de l'affection.
Non, c'est pas interprété avec nos catégories.
Oui.
La philia, c'est le lien. C'est pas plus que le lien, mais c'est un lien indestructible. C'est intéressant aussi que les noms sont tellement parlants. Éthéocle veut dire la vraie gloire. Et Polynis veut dire celui aux multiples haines, le querelleur. Et donc, déjà, Antigone, les personnages, la pièce pour un Athénien, suggérer déjà un sens.
Mais il faut quand même préciser que les deux frères se sont entretués. C'est ça quand même l'histoire d'Antigone. Elle veut. Les deux sont morts parce qu'ils se disputaient l'un et l'autre le pouvoir de Thèbes. Et c'est finalement l'oncle Créon qui va régner parce qu'ils se sont entretués au combat.
Mais elle s'en fout parce que c'est pas de savoir qui va régner sur Thèbes qui l'intéresse. Elle défend tout à fait autre chose. À ce niveau d'opposition qui est celle qui oppose le rituel qui scelle le lien familial ou tribal contre les règles de fonctionnement de la cité. Alors là, elle est du côté de la famille et donc de la filia, de ce lien qui ne saurait être renié, quoi qu'il arrive. Mais elle traverse toutes ces oppositions, c'est ça que j'essaie depuis le début de dire. Chacune est pertinente. C'est-à-dire, femme contre les hommes, c'est très pertinent dans la pièce. Mais ça ne résume pas la pièce. L'enjeu tragique est au-delà de toutes ces oppositions. Et c'est l'opposition ultime qui met Antigone face à elle-même qui est tragique. Et c'est là qu'un vent de folie s'empare de l'assistance et ils sont transportés bien au-delà de tous leurs soucis, toutes les assimilations, la haine qu'ils ont pour leur femme, pour leur oncle, etc., dans leur famille athénienne, tout ça. C'est balayé par quelque chose de tellement plus puissant, tellement plus effrayant aussi.
Mais c'est ça, on peut comprendre qu'on connaît la condamnation par Platon de la tragédie
Mais
antique.
Oui.
Parce que, vous dites, c'est aussi pour ça qu'on regarde des tragédies au théâtre. Après, je sais plus quel est le terme que vous avez employé, ça nous rebooste, comme vous dites. Mais au fond, nous assistons à un spectacle qui laisse entendre que la seule manière de s'en sortir, bah, c'est la mort. Qu'on se donne ou qu'on donne à ses enfants. Il y a quelque chose d'insoutenable.
Ouais. C'est-à-dire la mort, si passivement et craintivement je l'accueille, eh bien, je n'en fais pas ce que je pourrais en faire si je la revendiquais, si je m'en emparais. Et le geste tragique, c'est un peu un geste paradoxal dans la mesure où la vie va s'élever au-dessus de la vie grâce à la mort. Puisque la vie qu'on vit, menacée par la mort, c'est la petite dégringolade de tous les jours que nous vivons quand nous nous levons le matin. Chaque matin, l'âge venant, ça devient un peu plus difficile, etc. Mais on repousse l'échéance. Alors que dans la tragédie, on la fait s'approcher. Et on essaye, par procuration évidemment, de la vivre dans toute son intensité. Et grâce à cela, s'opère une forme de délivrance.
Ah oui ?
La petite mesquinerie qui fait que nous vivons dans les oppositions traditionnelles, droite, gauche, je sais pas, socialiste, libéral, dans l'économie, ensuite dans le rapport familial, anti-autoritaire, 68 arts, autoritaire, toutes ces oppositions sont des transactions possibles. C'est ce que j'essaye depuis le début. Il y a une chose qui échappe à toute transaction, c'est ce drame intime du rapport que j'entretiens avec ma propre mort. Et si je m'empare de ma propre mort, au lieu de la subir de la part d'autrui, je ne peux plus accuser un autre d'être à l'origine de ce que... Je suis moi à l'origine de ce qui m'arrive, et du coup je suis de manière exaltée, moi.
Et c'est vrai ? D'ailleurs, c'est vrai pour vous ?
C'est-à-dire, c'est du théâtre. On vit ça par procuration. Personne... La vie sur Terre que nous menons est plutôt lamentable. On fait ce qu'on peut, mais l'œuvre d'art, le théâtre, c'est le lieu où les enjeux ultimes peuvent s'articuler et peuvent être vécus par procuration. Sinon, si l'humanité n'avait pas besoin de l'art, c'est-à-dire comme d'une thérapie ultime, pour donner un sens à cette existence toujours plus ou moins médiocre que nous menons sur Terre, s'il n'y avait pas... Ça serait infiniment triste. Je dis toujours, l'humanité devait avoir un sens aigu du besoin de cette thérapie par l'art. C'est comme une médication contre la médiocrité. Il n'y a rien de plus anti-médiocre, anti-naissance pure et simple qu'Antigone. Elle s'insurge contre la naissance, qui est d'ailleurs la naissance d'une descendante de la lignée maudite. Et donc, il y a encore une petite dimension dans son geste, c'est qu'elle met fin à la malédiction. Puisque c'est elle la dernière qui était en réalité appelée, selon le droit grec, elle aurait dû devenir la mère, parce que Créon est là comme suppléant. C'est via Antigone et son enfant que Thèbes aurait de nouveau eu un roi de la lignée des Lapdacides, qui elle est condamnée par Pélops depuis l'origine. Et c'est cette malédiction qui prend fin avec le suicide d'Antigone. Donc elle est doublement contre la naissance, contre le gonos. Elle est doublement contre ce qui est simplement une espèce de reconduction de notre existence ordinaire. Il y a un coup d'arrêt, il y a quelque chose d'une violence absolue, mais elle est évidemment figurée. Elle n'est pas dans la vie réelle.
C'est toute la question. Quel effet est-ce que ce sens figuré a sur notre vie réelle ? On ne peut pas le voir non plus comme une invitation à célébrer sa propre mort.
On ne peut pas. Non, c'est l'exaltation, l'intensification du sens d'exister. Dans cette espèce de démence, cet élan partagé au théâtre, on accède à une dimension de l'existence qui, dans la vie ordinaire, est inaccessible. Voilà. Et donc, les Pésistratides, quand ils ont c'est une institution, la tragédie. Les Athéniens qui n'assistaient pas à la tragédie devaient payer. Vous vous rendez compte, aujourd'hui,
il y avait une amende.
L'amende.
Aujourd'hui, on la paierait tous, alors depuis un an.
C'est le contraire aujourd'hui. Et c'est incroyable de se dire que les Grecs, enfin les Athéniens en l'occurrence, qui vivaient, Athènes était puissante, et Athènes était quand même une cité promise à un avenir extraordinaire, etc. Donc un élan de, je sais pas, optimisme régnait dans la cité. Les discours de Périclès, par exemple, sont des discours d'un optimisme extraordinaire. Et la vérité humaine, c'est la catastrophe. Et donc, par thérapie. Parce qu'une catastrophe qu'on évite de regarder en face laisse des traces tout à fait délétères dans la vie normale que nous menons. Parce que moi, je refoule la conscience de ma mort, évidemment. Mais ce refoulement de la conscience de ma mort m'enlève quelque chose d'authentique qui m'appartient et que je ne veux tout simplement pas regarder en face. Eh bien, au printemps, quand Dionysos arrive avec le vin, le printemps, tout éclos de nouveau, il y a toute cette énergie de la nature qui se manifeste, eh bien, on va s'offrir le spectacle de l'énergie ultime, celle qui fait que nous ne sommes pas tout simplement des gens qui végètent.
Notre siècle, aussi du point de vue politique, se reflète, se miroite dans l'intensité absolue de certains mythes clés. J'oserais dire, c'est l'alphabet de notre sens historique. Certaines attitudes essentielles ont marqué notre statut d'homme. Et je donne immédiatement un exemple. Tandis que Oedipe, grâce à Freud et à la psychanalyse, jouit d'une autorité très grande en Occident, les Antigone, c'est-à-dire l'enterrement vif, le refus d'un système totalitaire de lâcher le mort, de le rendre au vivant, il n'y a pas une semaine qu'une pièce, un poème, un roman, une évocation de ce thème ne me proviennent du tiers-monde, de l'Afrique, de l'Amérique centrale, où en ce moment aussi des corps ne sont pas enterrés. Il y a une Antigone souterraine qui vient du Cambodge, des champs de la mort de Pol Pot. Ce qui est ahurissant, si vous voulez, c'est l'économie de la sensibilité humaine. Il n'y a pas beaucoup de mythes, il y a des mythes capitaux, cardinaux, j'oserais dire, et une merveilleuse économie de référence dans l'émotivité de notre conscience.
Ayn Wiesman, avez-vous reconnu la voix que nous venons d'entendre ?
J'essaie vainement de...
Je la connais. Bien. Hein ? Il s'agit de Monsieur Steiner.
Je la connais, mais j'étais pas capable de mettre un nom dessus.
Et c'est formidable de voir à quel point elle analyse la puissance de ce mythe, qui est Antigone, du mythe en général, avec cette analyse. Hein. L'économie de moyens, au fond, très peu de mythes peuvent expliquer l'universalité de notre condition humaine, et en particulier le mythe d'Antigone, hein, qui pour lui est fondamental parce qu'il exprimerait ce qu'il appelle la totalité des principales constantes des conflits inhérents à la condition humaine.
Ouais,
difficile de pas être d'accord.
Non, je peux pas... J'hésite là beaucoup parce que je suis très proche de exactement cette formulation, puisqu'il s'agit de la condition humaine, de ce qui est en son cœur et qu'il faut dégager dans un geste violent. Mais en arrière-plan, il y a une sorte de complainte. On dit « Ah, c'est tous ces pauvres qui sont morts, assassinés, tous ceux qui sont victimes d'eux, etc. » Il ne faut pas assimiler la mort tragique à cette mort dans les camps.
Pourquoi ?
C'est une mort, l'horreur de la mort subie dans les camps, c'est l'avilissement humain. Tandis que ce que une figure comme Antigone suggère aux gens qui assistent au spectacle, c'est la splendeur de la mort. C'est l'extraordinaire transfiguration que la mort permet. Et donc, dans ce cas, la mort, c'est pas la mort de quelqu'un qui périt doucement, à petit feu. C'est ce que Créon aurait voulu, parce qu'il l'a emmuré en lui laissant un peu de nourriture pour qu'il s'accroche à la vie, pour qu'elle continue à vouloir vivre et donc mourir d'une certaine manière d'une mort insignifiante. La mort que meurent tous les animaux qui sont privés de nourriture. Tandis qu'elle, elle s'empare de cette situation et par son suicide, elle exalte la puissance de cette mort choisie pour aller au-delà de la condition humaine ordinaire.
Oui, donc vous
méfiez. Il ne faut pas mélanger les deux.
Les transpositions que propose George Steiner dans l'extrait qu'on a entendu, où il dit mais finalement dans les pays du tiers-monde, dans le
Pol Pot,
etc.
Voilà, je ne crois pas qu'on puisse faire ça.
Voilà.
Je ne crois pas. Mais je pense que au tout début, il avait des formulations auxquelles je souscrirais immédiatement. Et c'est souvent le cas avec George Steiner.
C'était votre professeur ?
Non, mais je l'ai connu à une époque où il enseignait à Genève. Et j'ai traduit un de ses textes D'ailleurs, c'est très drôle. Un texte qui s'intitule Le sens du sens. Mmh. Et enfin, c'est toute une histoire. Et je n'étais pas totalement d'accord avec ce texte que je traduisais pourtant scrupuleusement. Et bon, c'est là qu'on a eu un échange qui est resté, bon, il n'a vraiment pas débouché sur quelque chose. Et donc, j'ai à l'égard de Steiner, un sentiment mêlé d'exaspération par l'abus qu'il fait des choses très justes qu'il pense. Et là, je vois une forme de... Enfin, je dis abus, hein, c'est une instrumentalisation de la vérité au profit de quelque chose que la plupart peut-être prennent pour vrai.
Ben, en tout cas, il relaye une position courante aujourd'hui, oui, de voilà, se dire nous sommes tous des Antigones voilà. De quelque chose, en fait, dès Exactement. Qu'on est du côté de la résistance.
Alors que je pense qu'aujourd'hui, au théâtre tel qu'il fonctionne dans notre société, il faut aussi avoir un peu l'esprit historien dans la société qui est la nôtre, qui est la société des transactions. C'est-à-dire où toutes les oppositions sont a priori susceptibles de faire l'objet d'une transaction. Et où le but est de désamorcer la violence extrême qui niche dans les oppositions. Et qu'on va extraire des oppositions au moyen de la transaction pour trouver un terrain de réconciliation. Et donc la démarche de la tragédie athénienne est totalement inverse. Puisqu'elle vise à exacerber la tension ouais. et à la faire éclater comme dans un feu d'artifice.
Oui,
final.
Mais alors, cette radicalité sans compromission dont vous parlez, on la trouve dans certains actes aujourd'hui, on la trouve dans le djihadisme, on la trouve dans ceux qui vont choisir la mort plutôt que toute forme de compromis.
Ah non, mais là, vous mettez le doigt sur quelque chose. Ce qui fait que le djihadisme, qui nous fait terreur par le terrorisme, mais ce qui fait que le djihadisme exerce une attraction extraordinaire, c'est que culturellement, et à travers certaines traditions religieuses, on est réfractaire à la transaction qui fait avancer le schmilblick. C'est-à-dire, on ne veut pas que le schmilblick avance, on veut assumer, jusque dans l'horreur, ce qui est inchangeable, qui est voulu par Dieu, et que l'homme ne va pas modifier. Ça a une certaine grandeur horrible.
Oui.
Et donc, la question qui se pose à nous, c'est une question, je dirais, de gestion culturelle des incohérences qui travaillent en souterrain notre propre culture contemporaine. Enfin, je ne résiste pas, je disais ça tout à l'heure à votre assistante, quand j'étais dans le train hier, dans le TER d'abord, il y avait trois petits gosses basanés entre 12 et 15 ans qui jouaient au cache-cache avec la contrôleuse parce qu'ils n'avaient pas de billets. Et donc je les voyais faire, je trouvais ça assez amusant, parce que c'est un jeu, le voleur gendarme, quoi. Et puis, ils enlevaient leur masque. Et là, bon, le crayon en moi leur dit, la cité demande qu'on mette le masque sur le nez. Ils m'ont regardé, et m'ont dit, raciste! Et là, on est au cœur du problème de notre société. C'est évidemment trop facile d'utiliser une opposition qui est fondée sur des récriminations légitimes, de l'utiliser dans des contextes dans lesquels on veut tout simplement se dédouaner.
Je vous laisse éteindre votre téléphone.
Ah, je suis désolé.
Je vous en prie, c'est l'occasion de renouer avec Antigone. On va entendre un extrait quand même du cinquième épisode, juste oui. avant le drame final, pour le plaisir d'entendre Tirésias. Tirésias qui va prononcer une sorte de tirade contre l'hubris, contre la démesure. Est-ce la voie de la sagesse et donc peut-être du compromis qui serait tant redouté par Antigone? Écoutez.
Ce mal qui ronge la cité. Ce mal nous vient de toi. Les autels, les foyers de Thèbes sont souillés par le corps pourri du fils d'Édipe, abandonné par toi aux chiens et aux rapaces. Les dieux n'acceptent plus nos sacrifices, n'acceptent plus le feu pour nos victimes, et les oiseaux repus de graisse de cadavres n'ont plus de cris propices pour nous tous. Réfléchis bien à tout cela, mon fils. Tout homme peut se tromper, mais à moins d'être un criminel ou un fou, il essaie de réparer sa faute et non de persévérer dans l'erreur. Créon, soumets-toi à ce mort. Cesse de t'acharner sur un cadavre. Quelle joie éprouves-tu à tuer un mort? C'est à toi que je pense, à toi seul. Écoute-moi, et le plus grand profit sera pour toi.
Alors, dans cet extrait, Tirésias s'adresse directement à Créon, hein, vous l'aurez compris. Quel est le rôle exact de Tirésias dans cette pièce? Puisque si on suit votre analyse, Hans Wiesmann, finalement, Antigone se suffit à elle-même. Pourquoi Tirésias joue-t-il un rôle ici?
Il sermonne Créon, parce qu'il fait comprendre à Créon qu'il y a ces fameuses lois, que le rituel de l'enterrement perpétue sont des lois basées sur le lien du sang, sur la famille, sur la tribu. Il lui rappelle ça, lui qui est à la tête d'une cité, où il édicte des règles de fonctionnement de la cité qui n'ont rien à voir avec les rituels religieux. Et donc Tirésias, dans cette scène, il rappelle simplement à Créon qu'il y a une position qu'il néglige, qui est donc celle du respect du rituel d'enterrement. Et il lui dit, écoute, qu'est-ce que ça te coûte de faire une transaction? Tu pourrais quand même respecter le mort, là, parce que ça nous touche beaucoup sur nos autels, les offrandes pourrissent, rien ne marche plus. Le rapport avec le divin, à travers donc la tradition rituelle du respect familial, est perturbé. Mais qu'est-ce que ça te coûte de faire un geste? Et du coup, plus de tragédie.
Oui, c'est ça. Tirésias appelle à sortir
Tirésias
de la tragédie.
Il veut sortir de la tragédie. Mmh. Et le cœur, qui est un cœur de vieillard,
oui.
Le cœur va à son tour insister sur le fait qu'il faudrait faire preuve de mesure, il faudrait pas aller trop loin. Enfin, tous ces discours qu'on connaît.
Anti-tragique, au fond.
Et alors, le mot qui me vient pour désigner ces injonctions qui voudraient désamorcer le conflit tragique, c'est la tolérance. C'est un mot effroyable quand on l'écoute. Ça vient du latin, et ça désigne, je sais pas, la peine qu'endure le soldat romain quand il porte son barda, et donc quand il supporte la peine. Donc dans le mot tolérance, caché aujourd'hui, il y a la notion de souffrance. Et donc, chez saint Augustin et ensuite chez Luther, cette souffrance, la tolérance, c'est celle de Dieu qui veut que les Juifs se convertissent. Et il y a une mise en garde implicite adressée aux Juifs. Puisque ça fait souffrir Dieu, eh bien, sa patience, et ça c'est l'autre souffrance, sa patience ne sera pas infinie. C'est terrifiant. Et donc, la tolérance est un déguisement de l'intolérance. C'est une sorte de faiblesse de surface. Et donc, tout ça est balayé par l'excès tragique. Et le cœur, qui va dans ses derniers mots d'ailleurs, il va insister sur le fait que tous ces malheurs viennent parce que les hommes sont trop, je sais pas, unilatéralement obsédés par ce qu'ils font, ce qu'on appelle en grec hubris, ils veulent toujours aller jusqu'au bout. Et Créon, dans ses derniers mots, dit aussi, j'aurais dû ne pas vouloir aller jusqu'au bout.
Mais donc, l'essence même du tragique, tel qu'il est défini dans la pièce, ou dans le personnage d'Antigone, est par définition apolitique.
Totalement.
Parce que si c'est finalement l'opposé du tragique, c'est la tolérance, c'est la patience, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble au fond.
Bon, mais
ça, c'est pas du tout l'affaire du tragique.
Mais une fois sortis du théâtre, les Athéniens vont vaquer à leurs affaires. Mais ils auront eu une expérience de transcendance, si on veut, mais qui reste ponctuelle, qui est circonscrite au théâtre. Elle appartient à l'art. Et c'est ce que j'appelle la thérapie indispensable de la misère humaine. Parce que la misère humaine va reprendre quand, avec Bobonne, ils vont se retrouver à la maison et qu'ils vont devoir faire la vaisselle ou je ne sais pas quoi. C'est Euripide qui a été le plus loin dans la dénonciation de la tragédie que représente la vie ordinaire du couple. Dont Alceste, qui revient des enfers pour ensuite dire
c'est
à son
mari... C'est une femme, Alceste, hein, chez
Euripide. Oui, c'est une femme qui dit, admette à Marie, écoute, si l'autre se rebiffe, elle lui dit, mais je suis morte pour toi maintenant, alors tu peux quand même payer en retour. Et imaginez l'horreur de la vie de couple qui est dans le happy end, le comble du tragique. Et donc, ce que la tragédie grecque essaye de faire monter en épingle, quoi, c'est une sorte de... Ouais. C'est cette espèce de exacerbation ultime du conflit qui est notre existence même de vivant promis à la mort.
On va se quitter, justement pas du côté de la vie ordinaire, mais on va rester dans le tragique avec Antigone, une version de Karl Orff. Je crois que vous aimez beaucoup Hans Wittmann. Vous voulez en dire deux mots avant qu'on l'écoute, très rapidement?
Juste une phrase.
Une phrase.
C'est que Karl Orff, j'ai hésité à donner cette indication, parce que Karl Orff était nazi.
Oui, en effet.
Et c'est une figure de nazi très très particulière qui cherche donc à restaurer l'archaïque. Hein, c'est un rêve comme si nous étions dans la civilisation occidentale, technique, tout ce que Heidegger dénonce, nous sommes déjà un peu ramollis. Et donc, nous sommes finalement promis à la disparition parce que nous n'avons plus assez de force vitale. Et donc lui pensait que dans l'Antigone, dans la tragédie grecque, il pouvait par la musique ressusciter cette violence archaïque. Et les nazis ont beaucoup aimé, lui-même était de ce côté-là. Je ne sais pas si c'était par naïveté et inadvertance ou par calcul, et à d'autres, Karajan était du même côté. Alors, je ne veux pas me prononcer là-dessus. J'attire juste l'attention sur le fait que c'est de l'archaïque refait à l'époque de la modernité ramollie.
Oui, en même temps, du coup, on l'écoute forcément différemment après toutes les informations que vous venez de donner. Merci beaucoup Hans Wittmann d'être venu nous parler d'Antigone ce matin. C'est un plaisir de vous entendre parler de cette pièce. Je renvoie notamment à un livre qui s'appelle Le métier de philologue, envoyé par Pierre Judet de Lacombe aux éditions de la Sorbonne, dont on aura l'occasion de reparler à ce micro. On met les références en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Il est l'heure sur France Culture d'accueillir Aurélien Bélanger pour sa question philo.
Tu les aimes tes cours de philo ?
C'est vraiment très enrichissant.
Je me demande encore un peu de pratique.
Bonjour Aurélien.
Bonjour Adèle.
Votre question, vous êtes bien loin, j'espère que vous nous entendez bien. Votre question ce matin est la suivante. L'économie est-elle une science ou une pratique magique ?
Eh bien, un journaliste économique me faisait récemment cette remarque étrange qu'il détestait l'économie, ses querelles de chapelle et ses crises systémiques, ses enjeux monétaires opaques, ses débats sur la dette. Lui, ce qu'il aimait, c'était les entreprises et les entrepreneurs. Et je crois que voir ce qu'il voulait dire, que tout cela est grossier, fantomatique par rapport à la réalité chatoyante du réel en tant que tel, en tant qu'il a été taillé, poli, marketé par les entrepreneurs. Un ami m'a fait part à ce propos, je ne l'ai pas retrouvé hélas, d'une vidéo qui confronterait Lordon, pas spécialement un ami du capitalisme, à un iPhone récent, et celui-ci soudain, au lieu de se lancer dans une envolée à la Damasio sur le techno-cocon, concède à la chose une séduction immédiate et totale. Je crois en fait que c'est cela qu'essayait d'articuler mon journaliste venu de l'autre bord. Rien n'indique que l'économie soit bonne ou mauvaise. Par contre, elle a la vertu presque surnaturelle ou édénique de déposer dans nos mains quelques objets parfaits qui ont valeur d'argument. L'arbre est peut-être mauvais, mais que ses fruits sont beaux et aveuglants aussi. L'économie se fondrait dans leur chair métonymique comme pour se camoufler.
Vous voulez dire que l'économie serait quelque chose de secret ?
De secret ou plutôt d'occulte même, de l'ordre d'un envoûtement. Alors j'ai mis longtemps à m'en rendre compte, il m'a d'abord fallu prendre le taxi à l'aéroport dans un pays étranger. Mon chauffeur écoutait une émission sur le foot, à laquelle je ne comprenais rien, bien sûr. Ce que je comprenais par contre immédiatement, avec cette sorte d'extra-lucidité que donne sa sortie soudaine d'un aéroport à l'autre bout du monde, c'est que ce pays avait à relever des défis beaucoup plus grands que ceux de son championnat de foot, des défis économiques notamment. Et cette émission de foot m'a paru une atroce diversion. Alors je n'y avais pas repensé jusqu'à ce que je tombe l'autre jour à la radio par hasard sur une émission boursière qui commentait en direct les performances des différentes valeurs du CAC. C'était vertigineux de néant. On ne savait même pas ce que faisaient les entreprises, quel était leur domaine d'activité, leur stratégie. On était seulement concentré sur les fluctuations hypnotiques de la valeur de leurs actions. Tout au plus, une consultante intervenait pour apporter un peu de hauteur de vue. Ce sont des valeurs qu'on aime bien à Inexos Management. Ce n'était pas tellement à la hauteur de l'importance supposée qu'aurait l'économie dans nos vies. Et j'ai compris qu'il s'agissait en fait d'un rituel de conjuration, exactement comme quand on débat du championnat de foot en espérant que nos mots auront une vague influence sur les événements en cours. On marmonne à voix basse des pronostics, non pour qu'ils soient vrais, mais pour qu'ils le deviennent.
Ça veut dire que l'économie relèverait en dernier lieu d'une sorte de sorcellerie ?
Bah tout à fait, personne ne sait en tout cas comment ça marche, ni comment ça s'arrête, soudain, la crise étant le moment où l'économie se montre à nous presque littéralement comme une force occulte et déchaînée. La crise ne serait en cela pas tant un arrêt de l'économie, mais une mise en scène de sa toute-puissance. C'est le moment où on convoque d'ailleurs en urgence des économistes un peu partout, non pas pour les punir de n'avoir rien vu, mais pour qu'ils lancent de nouveaux rituels de conjuration.
Donc, pour répondre à votre question, en fait, pour vous, c'est entendu, l'économie n'a rien à voir avec la science, mais seulement avec la magie.
Bah, alors, j'aime bien la conclusion, en tout cas, à laquelle en arrive Walter Benjamin, alors que l'Allemagne est confrontée à son fameux épisode d'hyperinflation. L'économie actuelle, écrit-il, envisagée dans son ensemble, est beaucoup moins comparable à une machine qui s'arrête lorsque son chauffeur l'abandonne qu'à un fauve qui se déchaîne aussitôt que le dompteur a le dos tourné.
Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et il me reste quelques secondes pour remercier l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Jules Barbier, Clémentine Marais, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malanda qui réalise pour vous cette série d'émissions. La prise de son aujourd'hui, c'était Nicolas Delmas. On se retrouve demain pour la suite de notre série Tragédie. On sera en compagnie de Florence Dupont demain qui viendra vous raconter l'histoire d'Oedipe, une histoire complexe, une histoire contestée. Florence Dupont a une interprétation bien à elle qu'elle viendra vous livrer demain à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter sans problème cette émission et surtout, restez à l'écoute sur France Culture.